création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. D'une petite enfance au Maroc, elle a gardé l'image de ceux qui regardent l'autre rive, vers les côtes espagnoles. Plus tard, dans un village d'exilés, en Inde du Nord, croisant ces personnes ni tibétaines, ni indiennes, ni même réfugiées, considérées comme des invitées, mais n'ayant aucune chance d'obtenir un visa, elle a désiré interroger ce qui peut subsister d'espérance. Notre destination est Tanger, où elle a pu, grâce à la bourse « Brouillon d'un rêve » de la SCAM, rencontrer des migrants, attendant parfois depuis plusieurs années de réussir la traversée. Création On Air, Tôt ou tard quitter Tanger, par Laure-Anne Beaumati, Véronique Lamandour et Benjamin Chauvin.
Je me suis dit que c'était la dernière fois. Tanger, tu m'agaces. Je te fuis autant que tu m'aspires. Je suis là. Je suis dans cette salle d'attente. Je m'apprête à te laisser filer derrière moi, Tanger. Tu ne seras bientôt plus qu'une tache verte et blanche, fondue dans le bleu. Ils attendent le ferry. Ils sont avec moi dans cette salle d'attente. Elle regarde dans le vide. Elle est là sans être là. Elle est anxieuse. Elle s'appelle Anne. Elle s'est installée à Tanger il y a 14 ans. Elle est gérante d'un hôtel. Elle retourne à Bordeaux voir sa mère, qu'elle n'a pas revue depuis toutes ces années. Il s'appelle Marc. Il vient d'aller à la rencontre d'une femme de Tanger qu'il a connue par Internet. Il s'appelle Sylvain. Il est impatient. Il tourne en rond. Il revient d'un voyage de 6 mois à vélo en Afrique de l'Ouest. Il a étalé un tissu au sol. Il fait la sieste. Il s'appelle Abderrazak. Il a travaillé toute sa vie dans une usine au Havre. Il s'est passionné pour la photographie. Un jour, il a abandonné son travail et il a ouvert une boutique de photographie à Kenitra, sa ville d'origine. Mais ça n'a pas marché. Il est retourné travailler dans une autre usine, en France, jusqu'à sa retraite. Cela fait 2 ans maintenant qu'il s'est réinstallé à Kenitra. Il fait des allers-retours entre les deux pays.
Je suis Reda, j'ai 27 ans, j'habite à Tanger. Et je sais pas. Et j'ai envie de trouver, de découvrir d'autres endroits dans le monde. J'ai grandi aussi en regardant plutôt ce côté qu'ici. C'est à cause de ça que j'ai l'impression parfois que. Pendant que je grandissais, et j'étais pas vraiment là, où je me suis pas fait d'une façon pour m'intégrer. Je sais pas, j'étais un peu isolé ou pas très, très sociable en même temps. Mais si, il y avait toujours l'idée là dans ma tête que j'allais finir là, et c'était plutôt les transitions ici pour y arriver. Mais maintenant, j'ai pas envie de chercher un matériel, j'ai pas envie de trouver de réussir à avoir un succès financier ou économique. C'est juste de trouver le bien-être personnel, intérieur. Et pour ça, il faut aussi trouver l'endroit où on va se sentir comme ça. Mais quand même, avec le passeport marocain, c'est dur de bouger. Donc, je sais pas, je pense en Amérique latine. J'ai la sensation que ça fait me faire du bien parce que c'est une culture plus proche à celle d'ici. Et en même temps, la langue qu'ils parlent, c'est une langue que je maîtrise bien. Et j'ai une admiration au peuple et la culture de ce continent. Donc oui, maintenant, c'est plutôt que l'Europe, c'est l'Amérique latine. C'est un but plus spirituel que matériel. Je suis allé à une école espagnole et j'ai fait toutes mes études en espagnol. Donc une fois j'ai eu mon bac, baccalauréat espagnol, j'avais juste l'option de continuer avec mes études en Espagne. Sinon ici ça allait être dur, je ne parlais pas français, et ici l'université est en français, c'est un système différent. Et c'était censé être comme ça, et j'ai toujours eu dans ma tête que j'allais aller en Espagne pour continuer et finir mes études. J'avais une bourse pour faire ingénierie industrielle et bah, j'ai sollicité mon visa étudiant. Ils me l'ont donné avec un mois de retard après que le cours avait commencé. Et bah, une fois que je suis arrivé, je me suis trouvé dans une situation de désavantage. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas que je pouvais savoir ce que je voulais faire. C'était pas une question que je m'avais jamais questionné ou fait à moi-même. Il y avait mon père qui me disait tout le temps quoi faire, il me parlait que de mes études. Tu vois, mes parents ils se sont séparés quand j'avais 8 ans. Et à chaque fois qu'on se voyait ou on parlait, on parlait que de ça, que de mes études. Donc, il était un peu adoctriné, j'allais suivre le chemin qu'il me disait, être un bon étudiant, faire les sciences, prof d'université, scientifique, ingénieur, quelque chose comme ça. Donc c'était le chemin déjà dessiné. Mais finalement, bah, je suis arrivé, c'était une situation, comme j'ai dit, pas très favorable. J'étais un bon étudiant, je bossais bien tout le temps, mais je ne voyais pas le sens dans ces moments et finalement oui, j'avais la flemme de rattraper et continuer en même temps, donc j'ai abandonné. C'était pour moi une grande crise existentielle parce que c'était la vie pour moi, c'était ça, c'était faire les études, finir, avoir un bon boulot et tout ça, hein, toute l'histoire. Et finalement j'ai décidé de rentrer au Maroc. Et je suis resté ici, je ne suis pas retourné que l'année dernière après 5 ans. Pour avoir la visa aussi, c'est dur. Il faut avoir une situation stable, laborelle, avec la CNSC, la sécurité sociale et tout. Ils te demandent les bulletins de paie, le certificat de travail, une assurance. Il demande aussi les relevés bancaires des derniers 3 mois. Il faut avoir de l'argent dans la compte bancaire. Ils vont se rassurer que tu vas pas, ou que tu as une raison de revenir au Maroc. Donc c'était que l'année dernière que j'ai réussi à avoir une visa et visiter Barcelone, Madrid. Maintenant c'est même pire qu'au Maroc. C'est pas très facile de trouver de boulot en Espagne ou c'est pas comme il y a quelqu'un qui avait l'image d'Espagne comme une terre d'opportunités, de gagner beaucoup d'argent et tout. Même si c'est pas vrai à la fin, mais si, je sais pas. Je vais essayer de faire un cours de prof et comme ça avoir les titres, les certificats pour pouvoir chercher du travail là, probablement en Amérique du Sud. Mais il faut. Il n'y a rien concrétisé. Ce sont juste des idées et je dois trouver la façon la plus pratique. Pour réussir à suivre mon rêve ou si mon projet. Je dois faire l'inscription dans les cours et avec ça faire une demande de visa d'étudiant. Mais ça sera bien. J'essaie de épargner un peu d'argent pour faire un petit cours, me diplômer dans quelque chose et pouvoir avoir un boulot qui me permet de partir ailleurs. Et en même temps, le travail à l'hôtel, c'est très intéressant parce que même si je bouge pas, et ça, il y a 3 ans déjà que je travaille là. Et ça m'a ouvert aussi l'esprit, ça m'a changé les yeux, la façon de voir les choses, les aspirations et tout. Et si, en même temps, tu arrêtes jamais de connaître des gens de partout qui te parlent ou avec lesquels tu échanges les idées. Donc, c'est un travail que j'apprécie bien. Si, je voyage sans besoin de visa. J'ai l'Espagne là en face, mais c'est ça, c'est juste un autre continent, une autre terre. Là en face, mais si ce ne sont pas les yeux de quelqu'un qui veut ou qui a les rêves d'y arriver, c'est juste un territoire là. Il y a les frontières, il y a les barrières, mais c'est beau de regarder avec la mer, mais si ce n'est pas cette image de destination rêvée. Si en fait, dans ce moment-là, j'ai pas vraiment des raisons pour vouloir quitter Tanger, mais en même temps, il y a toujours la force là qui m'attire, donc je sais que c'est ça que je dois faire. Et c'est ça ce que je veux faire. Si ça sera compliqué, ça sera dur de quitter, mais je sais pas. Je sais que ça sera une phase, une étape de ma vie, une période qui va commencer, qui sera sûrement plus excitant, non, comment dire, passionnante ou intense, si, avec avec beaucoup d'expérience et. Plutôt ça.
Partir.
Partir.
Il n'est pas là. Il regarde ailleurs. Il ne sait plus d'où il vient. Il oublie. Il ne peut pas revenir en arrière. Il ne sait pas où il va.
L'attente, comme un rêve presque éveillé.
Il n'est pas là. Il regarde vers là-bas. Il ne sait pas vers quoi. Personne ne lui a donné de direction. Personne ne l'attend, là-bas. Lui, il attend ceux là-bas.
L'attente qui donne envie de se cogner la tête contre les murs.
Il attend. Il attend que sa vie commence. Sa vie ailleurs. Après. Cet après, il le façonne tous les jours. Il le fantasme. Il ne sait pas combien de temps il lui faudra attendre. Il est impuissant. Il tente de lutter contre l'attente. Il est fébrile. Il s'épuise. Son mouvement est entravé. Il est comme coincé à l'intérieur de son propre corps. L'attente est là, entre la gorge et le ventre. Il la sent. Elle fait des sillons et peu à peu, elle creuse le ventre. Le vide laisse la place au manque. Il voudrait le frapper, ce ventre, pour qu'il se gonfle. Mais s'il se gonfle, ce n'est que ballonnement. Un leurre. Car le manque est là, car l'attente est là. Il est là. Il attend. Il attend la saison des départs, quand l'eau de la Méditerranée sera plus chaude. Il ne bouge pas. Les sillons quittent peu à peu son ventre pour imprimer son écorce. Il se risque à l'immobilité.
C'est Khalifa Moussa Abdullah. Ben, on m'appelait plus, les amis m'appelaient Gabriel. Ok. Le papa est du Nigeria, la maman est du Niger. C'est ça. J'ai grandi au Nigeria. Je suis attendu pour essayer de traverser. Ben, du moins pour le... quand je peux, quoi. Parce que c'est pas tout le temps. Peut-être en été, tu peux essayer une, deux fois. Si ça passe pas, je décide que j'ai pas pu. Donc je fais juste ce que mon cœur me demande de faire. Je force pas. Donc si je viens aujourd'hui, je passe pas. Je viens demain, je passe pas. Je force pas. Je dis juste, cette année, ce n'était pas pour moi. Puis, je me calme. Parce qu'à force de faire, tu peux récolter ce que t'as pas semé. Tu vois. Donc je suis pas obligé de forcer. Je prends juste mon temps. Ne pas trop y mettre le cœur, parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas quitter. Tu peux vieillir au Maroc sans toutefois atteindre ton but. Tu aurais tout fait pour rien. Tu vois, perdu le temps pour rien. Donc c'est ça, j'essaie de ne pas trop mettre ça dans ma tête. Essaye de penser à autre chose que l'Espagne. Je suis parti du Nigeria à 26 ans. Ouais, 26 ans. c'est une très longue histoire. Donc, comment dire, ben, les conditions n'étaient pas bonnes déjà. Et elles ne me permettaient pas de rester. Bon, c'était entre la vie et la mort. Tu vois. Donc, c'est ça qui m'a obligé de quitter. Tu vois, c'est juste, comment on dit, le papa s'est retrouvé. Voilà. On a vécu avec lui sans connaître ce qu'il fait. Donc, il était un peu dans des trucs foireux, quoi. Tu vois, ce qu'il fait. Si la famille restait, donc, on va nous choper un à un pour nous. Tu vois, quand les musulmans décident de faire quelque chose, ils vont nous tuer un à un, quoi. Tu vois, enfin, c'est pour ça. Et déjà, ils ont tué ma grande sœur, la fille aînée. Donc, c'est pour ça. On était obligé de partir. Une partie de la famille a décidé d'aller au Cameroun. Même au Cameroun, c'est pas facile avec eux là-bas. Ben, moi, j'ai pris une autre route. Là. Quand je suis arrivé au Niger, je suis tombé sur une bande de Camerounais qui faisait le voyage pour l'Algérie. Et puis, on a continué ensemble. C'est ainsi que j'ai essayé d'améliorer mon français. Arrivé en Algérie, j'ai encore rencontré une autre bande de Camerounais qui venaient au Maroc. On a continué ensemble. Donc c'était un peu comme... Pour moi, c'est pas une aventure, en fait. C'est juste un petit refuge. C'est juste pour fuir ce qui se passe au pays et essayer de trouver où je peux me caser pour un temps. Ta vie partout, mais juste que le Maroc n'accepte pas les Noirs, c'est tout. Pour les Arabes, si, même si tu es milliardaire et que tu as la peau noire, pour les Arabes, t'es rien. C'est pas seulement les Marocains, même les Algériens. En fait, nous, ils ne disent même pas Afrique, ils disent Afrique. Nous sommes des Africains, eux, ils sont Européens. C'est ce qu'ils disent. Ça, c'est... Si vous êtes européen, vous faites quoi dans la carte de l'Afrique? Il faut aussi voir. Vous jouez la Coupe d'Afrique. Donc, ils disent non, ils ne sont pas africains. C'est juste la peau qui diffère. Mais ils sont en Afrique. C'est ça. Quand les Marocains nous attrapent ici, attrapent beaucoup les subsahariens ici, à cette époque, quand ils renvoient l'Algérie les renvoie au Maroc, les Marocains les renvoient en Algérie. Les Algériens, à cette époque-là, les Algériens aussi nous ramassent, parce qu'ils ne peuvent pas nous renvoyer tous au Maroc, on est nombreux, ils nous renvoient dans le désert. On appelle ce désert Tizawati. Ils te renvoient vers... un peu comme si ils allaient en Libye avec toi. Ils vont vous laisser tous dans le désert. Quand on vous laisse dans le désert, on va vous donner une petite bouteille d'eau, comme celle que vous voyez là. Une petite bouteille d'eau, une boîte de sardines, un morceau de pain. Si vous avez la chance, vous sortez vivant. Si vous avez la malchance, vous allez tous mourir. C'est comme ça. Quand je suis venu au Maroc, je suis allé à Nador. Arrivé à Nador, on a tenté de passer. Puis la guardia civile, ils nous ont mis dehors. Ben, ce jour-là, il y a eu trop de dégâts. Ceux qui ne pouvaient plus marcher, ceux que les Marocains ont tapé qui ne pouvaient pas marcher, ils les ont laissés à Oujda. Et ceux qui sont gravement blessés, ils étaient envoyés à l'hôpital avec la Croix-Rouge, comme ils disent. Et le reste, on nous a renvoyés en Algérie. À la Guate, ils nous ont renvoyés au Niger. Au Niger, je suis remonté. Bon, quand on est remonté, on était nombreux, quoi. On était dans les 100 au moins. Et donc, ce qui fait, il y avait plusieurs fourgonnettes, plusieurs petites voitures, parce qu'ils utilisent des petites voitures comme des jeeps. Plusieurs petites voitures. On a fait plus d'un mois dans le désert. Ce qui fait, plus de 100 personnes. On est resté entre 10, moins de 10. Il y avait deux petites filles, une de 8 ans et l'autre de 5 ans, parmi nous. On a juste eu la chance, parce qu'il y avait un nombre de Nigériens parmi nous. Comme ils disent, entre Yoruba ou Igbo au Nigeria, et ils décident sur un nombre de personnes. Ils vont compter, peut-être s'ils disent 10, 1, 2, 3, jusqu'à 10, si ça atteint, si c'est toi le dixième, ils te prennent, ils vont t'amener derrière, ils vont te tuer, ils vont sucer ton sang pour survivre. Bon, c'est un peu ce qu'ils faisaient. On a fait plus d'un mois. On est sorti, puis on était 10. Attends, j'ai fait 3 ans. Les gens qui viennent, s'ils ont besoin d'un guide, tu essaies de suivre le pas avec eux. Et puis, c'est ça. Donc, on te donne quelque chose, ils te donnent quelque chose, etc. Je dessine. Je suis sur Internet. Je dessine. Puis je sors, je me balade. Il y a des fois, ils ont dit... Ils donnent des cours à Caritas, cours d'arabe, cours d'espagnol, cours d'anglais. Ben, on essaie juste d'améliorer. C'est tout. C'est ce que je fais de mes journées, en fait. Parfois, il y a quelqu'un qui peut venir et dire, s'il te plaît, fais un portrait de moi. Je lui fais un portrait, puis il me donne 100 dirhams, 50 dirhams. Tu vois, on essaie de jongler de gauche à droite. Tôt ou tard, je vais quitter cette eau. Donc, et de croire à ce que je fais. Puisque je ne peux pas forcer, je ne peux pas aller dire je veux partir, non, je ne suis pas Dieu. Mais juste, je mets dans mon cœur que tôt ou tard, je vais quitter. Avoir l'espoir, c'est tout. J'ai espoir. On est un peu divisé. Il y a ceux qui vivent à Misnana. Ben, la majorité se retrouve à Tizni et Kaza. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas revenir, ils se retrouvent à Tizni, d'autres sont allés en Libye. Si je ne suis pas parti en Libye au départ, pour partir en Libye, il faut un fonds, quoi. Il faut de l'argent. Ben, si j'avais de l'argent, je n'hésitais pas, j'allais partir. Ça fait, je serais parmi les 5 premiers à partir quitter le Maroc. Comme on dit, je préfère encore vivre dans la guerre en Libye que de vivre dans ce qu'on vit au Maroc. Et c'est beau, ici au Maroc, on est... C'est calme. Oui, c'est calme. Il n'y a pas de guerre de gauche à droite. Ben, la seule guerre qu'on a, c'est avec la population marocaine. Et les forces de l'ordre. Quand il y a la possibilité, on tente le coup. Quand il y a la possibilité, on tente le coup. Mais c'est au début d'été, quand il y a possibilité, on tente le coup, quand il y a possibilité, on tente le coup, quand il y a possibilité, on tente le coup pour voir ce que ça va donner. La possibilité, c'est-à-dire quand on a une bague, et des moyens possibles pour tenter le coup, quoi. On le fait. C'est ça. Anador, j'ai essayé plusieurs fois. À Cassiao, j'ai essayé plusieurs fois. Ici à Tanger, j'ai peut-être essayé 3 ou 4 fois. Un truc comme ça. On attend juste ce que Dieu nous réserve, quoi. Je sais pas si ça va, je vais essayer ou pas. Ben, j'ai autre idée. Je suis en train de préparer une exposition. Je sais pas si ça se passe bien ou pas. Donc peut-être je vais essayer cette année. Ok, c'est ça. Parce que si je dois essayer mon projet d'exposition, je dois abandonner. Parce que c'est après l'été que je vais faire cette exposition. Donc, ce sont des dessins. Des dessins faits à la main, au crayon et feutre. Alors, du coup, parce qu'on n'a pas de matériel pour faire à l'encre, j'essaie de faire au feutre et au crayon. C'est ça, c'est ce dessin que j'essaie d'exposer. Bon, c'est sur l'immigration et sur, comment on appelle ça, et sur le racisme. C'est sur ça. J'essaie juste d'imaginer un monde avec les droits de l'homme, c'est tout. Pas le paradis sur terre. Ah, c'est impossible d'avoir le paradis sur terre. J'essaie juste d'imaginer un pays avec les droits de l'homme. Parce que chez nous, en Afrique noire, il n'y a pas de droits de l'homme. Tu vois, on essaie un peu d'imaginer un truc avec les droits de l'homme où tu peux vivre ce que tu veux, avoir un boulot et une famille, quoi. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est fonder une famille. C'est tout.
Tanger. Tu as creusé, de trous rectangulaires, la roche grise qui se déverse sur la mer. Aujourd'hui, tes tombeaux sont des mares d'eau stagnante. Personne ne les regarde. Tous s'assoient dessus, les jambes qui pendent à l'intérieur. Personne ne semble se soucier de ceux qui y étaient autrefois endormis. Il ne reste que la pierre, creusée par les hommes, érodée par les vents. Il attend là. Il attend. Là où tu accueilles leurs regards. Là où tu ensevelis les corps de tes ancêtres phéniciens. Il est une ombre des ruines d'un monde imaginaire. Il a appris à se rendre discret. Là-bas. Avant. Sa grotte d'Hercule est bâtie des pierres d'un bonheur idéal, faite de bungalows, de plages, de piscines. Un club med à la meilleure place pour profiter de la vue sur l'Espagne. Il se sent presque étranger à lui-même. Il attend dans un endroit dont il n'attend plus rien.
Je m'appelle Issafi Fawzi. Je suis marocain. Généon 17 de 1958. Je grandis à Meknès. J'ai fait mes études primaires à Meknès. Et après, je déménageais à Casablanca. Quand j'ai entre 18 et 19 ans, comme ça. J'ai habité là-bas. Avec ma femme. Bon, ben voilà, mon ex-femme. Et mon fils. Parce que le premier garçon, il est né à Meknès. Et la fille, elle est née à Casablanca. Alors avec la pression et avec les problèmes que j'en ai avec ma femme et tout, moi, j'ai décidé pour partir ailleurs. Voilà. Une fois j'étais avec un collègue à moi, c'est un chauffeur de camion routier. J'ai vu des jeunes. Des Marocains qui sont en train de cacher derrière les containers et tout, machin, j'ai pas compris. Moi, je pense que les jeunes, ils sont en train de chercher du travail ou bien quelque chose comme ça. J'ai demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'ils ont fait, ce mec-là, ils m'ont dit c'est les jeunes qui sont en train de traverser. C'est quoi traverser? Traverser vers où? C'est les clandestins. C'est les gens qui partent en Espagne, en France. Ben voilà. Alors là, il m'a travaillé dans ma tête. Je dis pourquoi pas moi aussi, j'ai essayé. De temps en temps, je descends seul, j'ai rencontré avec les jeunes. J'ai en train de fumer avec des joints comme ça. Je bois avec eux de temps en temps. Seulement pour trouver moi aussi des tuyaux. Un jour, j'ai réussi. Je m'étais dans un bateau de marchandises avec un ami à moi que je l'ai raconté. Seulement pour lui aussi, il est de Casablanca. On était dans un bateau, on est parti. On a fait presque une semaine à la mer, sans manger, sans rien du tout. On est arrivé le matin tôt. Et la première ville qu'on est arrivé au territoire français, c'est Port-Saint-Louis. Alors de Port-Saint-Louis, on a fait Arles. Arles, c'est la première ville que j'ai habité en France. Je restais à Arles comme tous les immigrants. Ben voilà. Je connais personne. J'ai commencé à traîner avec les jeunes marocains que j'ai rencontrés avec eux. Et de petit à petit, j'ai commencé à connaître les choses. Et Arles, c'est une petite ville. Il est magnifique, pas mal. J'ai commencé à travailler avec un arabien marocain. Mais oui, il a la nationalité française. Il fait les marchés. Il vend des légumes et des fruits. J'ai travaillé avec lui un moment. Il me payait bien. À l'époque, il m'a donné 200 francs, 150 francs. Il ne me regarde pas en travers. C'est ça qui me plaît. J'ai resté un moment à Arles. De Arles, j'ai changé, j'ai parti vers Montpellier. Et là, à Montpellier, j'ai commencé à rencontrer des gens de, un petit peu de partout. Voilà, les Africains, les Espagnols, les Italiens. Et j'ai commencé à partir vers les associations. Et après, il est devenu à moi mon assistant social, mon éducateur, mon éducatrice. J'ai commencé à réagir les choses moi-même. C'est-à-dire, je suis devenu Montpellier. Et quand j'étais avec les associations, la première association, c'est le SAMU social. J'ai allé chez eux pour dormir dans un foyer. Et au foyer, il y en a les toxicomanes, les alcooliques, les gens qui ont une situation irrégulière et tout machin. Mais quand même, la personne elle est à l'abri. Il y a tout ce qu'il faut, les vêtements, la douche, la bouffe. Là, j'ai commencé à vivre. J'étais bien. J'ai commencé à chercher du travail partout. De temps en temps, je travaillais avec un maçon, bien... Quelqu'un fait le carrelage ou bien au marché, parce que j'ai déjà l'habitude, j'ai travaillé à Arles, j'ai pas trouvé de difficultés. De petit à petit, je connaissais bien les gens, machin et tout, et j'étais bien. Mon problème, quand j'ai entré moi au territoire français la première fois, je rentrais pas égal. J'ai entré à la clandestinité. Et j'ai entré pour déposer un dossier en 1998. J'ai posé un dossier, mais sans passeport, parce que je n'avais pas le passeport. J'ai posé un dossier et j'en ai mes pièces d'identité marocaines et mon permis de conduire. En ce moment-là, j'ai reçu le refus de la préfecture. La raison, c'est quoi? La raison, comme quoi, moi, j'avais pas un passeport. Et jamais j'ai fait un passeport de ma vie. J'ai été chez un avocat. Pour faire à moi un appel, l'avocat, il m'a demandé... À l'époque de francs, 30 000 francs. Et moi, j'en ai pas. Je restais comme ça, j'ai pas fait appel. Je restais comme ça. Mais j'étais bien quand même, j'étais bien. En 2003, il m'est arrivé un malheur, il m'est arrivé un problème. J'ai passé 14 mois de prison. Il m'a accusé de trucs que je n'ai pas fait. Et moi, je suis innocent. Mais innocent comme ça, bah, voilà. Ils m'ont Il m'a accusé de viol avec violence. Alors mon affaire, elle était aux assises. Mon avocat, il a dit, tu ne fais pas de soucis. On va demander la liberté provisoire, mais tu ne l'auras pas. Je dis, pourquoi ? Il m'a dit, tu as mal tombé. Il y a une juge d'instruction, je me souviens de son nom. Madame Leclerc. Elle m'a dit, tu as mal tombé. J'ai rentré chez elle. Lui, il a demandé la liberté provisoire. Elle l'a refusé. Pour quelle raison ? Premièrement, situation irrégulière. Pas de domicile fixe, pas de travail fixe. Il a dit, ce monsieur, il va entrer ce soir à Villeneuve-les-Magnon, c'est-à-dire aux prisons, sans discussion. Bon, mon avocat, il a dit, tu peux rien faire, on ne peut rien faire. Tu vas aller à la prison, je te fais visite à la prison et après on discute. Ils ont fait une enquête personnalité. Pour moi, c'est négatif. C'est-à-dire, j'ai gagné. Mais on attend l'enquête personnalité de la fille. Et la fille, elle était de Besançon. Et moi, je suis de Montpellier. On s'est rencontrés au hasard. Mon avocat, il a demandé pour elle, pareil que moi, l'enquête personnalitaire. Et quand ils ont commencé à faire l'enquête et tout, ils ont trouvé que la fille, il a déjà un problème de viol à l'île de la Réunion. Il a déjà, l'État, il a donné à elle 10 000 euros. Et quand on est arrivé à là-bas, je me suis sorti relax, non coupable. Et après, mon avocat, il a demandé ma dommage et intérêt. J'ai gagné ma dommage et intérêt. Les soucis que j'ai, c'est les soucis de les papiers. Les soucis de situation irrégulière, pas plus. Et quand j'étais à l'audience, madame le juge, elle m'a dit, c'est pas possible. Toi, tu es entré à telle année, vous êtes toujours en situation irrégulière, ça, c'est pas normal. Il faut que tu fasses des démarches pour que tu fasses tes papiers. Alors là, j'ai commencé à faire mes démarches. Et c'est quoi les démarches? Il faut faire mes pièces d'identité. D'abord, avant que je fasse le passeport. Et pour que je fasse le passeport, il faut que je aille chez le consulat marocain pour que je demande à eux. Et eux, ils ont envoyé une enquête personnalité ici au Bled, au Maroc. Et là, ça va durer un moment. Et mon assistance, et mon avocat, et mon éducateur de les services sociaux, et ils m'ont dit, Fawzi, il faut faire le plus vite possible avant qu'il sorte la loi de Sarko. Et moi, je me suis disputé avec le consul marocain pour le retard et tout, je ne peux rien faire. Quand j'ai reçu mon passeport, déjà la loi de Sarko, elle est sortie, elle est exécutée. Quand j'ai posé mon dossier, j'ai reçu encore le refus rejeté. Et je me trouvais ici au bled. Voilà. À Tanger.
Tu as passé combien de temps en France ?
On dirait 19 ans. Entre 19 ans et 18, comme ça. 18 ans. Je me suis rentré perdu. Perdu. Je me suis trouvé Tanger, c'est pas Tanger. C'est pas Tanger là où je connais à l'époque. Mais ma mentalité, ça changeait un petit peu. Le moment que j'ai passé là en France, c'est normal que j'avais une autre mentalité. C'est pas pareil. C'est pour ça que ici, j'ai trouvé plein de choses changées. J'ai trouvé mes enfants, ils ont grandi, j'ai pas grandi avec eux. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu quelques membres de ma famille. Alors je me trouvais comme un fou. C'est-à-dire, ça commence l'angoisse, les soucis. J'étais pas bien. J'ai resté à Tanger deux jours. Et après, j'ai pris le bus. J'ai parti à Meknès. Chez ma grande sœur. Et quand elle m'a vu, ma sœur, elle a surpris, elle a commencé à pleurer et tout, machin. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai expliqué à elle ma situation. Ben, voilà. Elles m'ont rejeté, ben, je peux rien faire. Alors, il faut que je voie mes enfants. J'ai demandé à elle est-ce qu'elle a des nouvelles de ma femme, de mes enfants. De, bon, c'est mon ex-femme. Il m'a dit oui, ça va. Ton fils, il est à tel endroit, mais la fille, il est avec sa mère. Est-ce qu'il est grandi? Il m'a dit oui, il est grandi, il est belle et machin. Alors, j'ai rencontré avec mon fils, mais la fille, je ne l'ai pas vue. Parce que sa mère, elle a poussé la fille contre moi. J'ai resté à Meknès 3 mois, ou bien 4 mois. J'étais perdu. Je n'ai pas supporté. Bon, j'étais la seule solution. Il faut que je retourne vers Tanger. Bon, j'ai trouvé un moyen. Je retourne encore en France. Eh bien, j'ai pas réussi. Ils m'ont attrapé pas mal de fois à l'intérieur de port. J'étais en difficulté. J'avais pas pour payer l'hôtel. Je sais pas quoi faire. J'ai commencé gauche-droite. Je cherche qu'un endroit à l'abri pour dormir. J'ai trouvé un lieu loin des villes, vers pas loin de casino. Le lieu s'appelle Villa Harris, c'est-à-dire le Club Med. C'est un endroit à l'abri pour les SDF de Tanger. C'est tout. J'ai rencontré avec des jeunes et avec des gens que eux, c'est pareil que moi. Il y en a qui viennent de l'Allemagne, il y en a qui viennent de la Suède, il y en a qui expulsent de l'Espagne, l'Italie, de toute l'Europe. Eh ben, j'ai resté là-bas un moment. Pour moi, c'est bien. Là où j'ai été au Club Med, j'ai fait un documentaire avec des Français et en même temps, fiction. Ça va durer 1h30. Et mon film de documentaire et en même temps fiction, il va passer au Festival de Marseille. J'attends. Je vais aller avec eux jusqu'au bout. Parce que les gens que j'ai travaillé avec eux, ils m'ont négocié avec moi. Et négocier, c'est-à-dire ils ont donné leur parole. Pour, ils m'ont donné un coup de main. Pour eux, ils m'ont envoyé une invitation pour que je vais aller voir mon film. Ils n'ont rien fait à moi. Et toujours j'attends avec une nervosité. C'est pour ça que j'ai commencé à douter. J'ai commencé à... ça m'arrivait des soucis. J'ai perdu la confiance à personne. Et toujours j'attends avec une grande passion. C'est tout. Ma place, c'est pas ici. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai rien ici.
Tu as des choses en France qui te manquent?
Bien sûr. Mes potes, mes amis, mes collègues... les rues, les endroits, les cafés, les bars, les places, les parcs, la mer, les forêts, tout. C'est ça mon rêve.
Là où vous êtes, j'ai longtemps rêvé de retourner. Le pays de mon enfance est le pays que vous fuyez. Depuis l'autre côté du détroit, je l'ai fantasmé. J'ai teinté ma vie de bleu majorel, de vert d'eau, de blanc franc et d'une douce lumière rosée. Enfant, j'aurais voulu rester. Aujourd'hui, je te fuis autant que tu m'aspires. Merci à Reda, Khalifa et Faouzi pour leur témoignage. Merci aussi à Amina et à Nadia. Prise de son, Benjamin Chauvin. Mixage, Pierre Mine. Création on air, Irène Omelianenko et Inès De Bruyne. Remerciements à Nakata, Aurore, Laurent et au collectif No Border Tanger. Tôt ou tard, quitter Tanger. Un documentaire de Laurent Bometti, réalisé par Véronique Lamandour, avec l'aide de la bourse Brouillon d'un rêve sonore de la SCAM.
Demain, à 23h, dans Création On Air, à la recherche de Yann Vos, par Christian Rosset et Gaël Gillon.